c'est grand, ça. Ouais.
C'est grand.
Tu peux pas être là en plus.
C'est bon. Ok. Rebonjour pour la deuxième conférence. Donc la conférence sera donnée par Jean-Benoît Léger, donc ancien élève de l'école, ancien membre actif, voire très actif du CRANS, et il va nous parler de problématiques de sécurité personnelle. Je te laisse la parole.
Donc, je vais vous parler d'OpenPGP. Principalement, je vais éviter de parler de GNU-PG. Pauline en parlera après, comment le mettre en pratique. Je vais plus vous parler des concepts, qu'est-ce que ça implique et comment ça marche. Je vais rester sur les dessins principalement. Je vais ni faire de maths, ni faire de ligne de commande. Parce que la ligne de commande c'est chiant, même si j'utilise que ça. Enfin, c'est chiant d'une présentation surtout, enfin pour moi. Et donc je vais d'abord commencer par introduire. Donc ça c'est mon plan, ça sert à rien d'en parler. Ça c'est encore mon plan. Et je vais vous introduire pourquoi on s'en sert. Donc dans un monde idéal, à quoi ça servirait? Dans un monde idéal, on n'est pas surveillé. Je veux dire que personne ne nous surveille. Notre famille ne nous surveille pas. Nos amis ne nous surveillent pas. Nos connaissances ne nous surveillent pas. Dans un monde idéal, l'État ne nous surveille pas. L'État ne nous trace pas. Notre opérateur ne nous trace pas. Je veux dire que il n'y a pas d'espionnage économique. Tout va bien. Bon, il se trouve que nous ne sommes pas dans un monde idéal et que... On a besoin de se protéger un peu. En pratique, on est surveillé par notre entourage. Enfin, personnellement, j'ai déjà surveillé mon entourage. Donc, j'évite que mon entourage puisse me surveiller. Les organisations nous surveillent. Donc, les organisations, ça peut être tout. Ça peut être notre employeur, ça peut être l'État, ou autre. Vous avez le droit de décider. Les usurpations de l'identité. Alors là, pour le coup, c'est le truc le plus fréquent qu'on voit. Moi, je rêve d'une chose. C'est recevoir un mail de ma banque et pouvoir cliquer sur le lien. Parce que je serais sûr que l'email de ma banque est signé. J'aimerais bien que ma banque signe ses mails. Bon, il se trouve qu'elle ne le fait pas. Donc en pratique, quand je reçois un email de ma banque, enfin, mon filtre, quand il reçoit un email de ma banque, le jette à la poubelle. Et vous devez le savoir... L'espionnage économique, c'est quelque chose de très courant. Alors, une des populations les moins protégées, c'est la recherche. C'est assez marrant, vu le nombre de choses qu'ils font. Mais ils sont même pas protégés contre la débilité, puisque les documents sont carrément accessibles au public, sur les wikis publics. Et après, on va se plaindre que des papiers en préparation ont été publiés par d'autres. Ah, bah ouais, ça arrive. Donc, ce que j'aimerais bien insister, c'est que c'est rarement dangereux d'être trop prudent. C'est-à-dire que si on est trop prudent, on peut être raillé par son entourage, on peut être considéré comme paranoïaque, mais dans tous les cas, ce sera pas grave. Par contre, de pas avoir été assez prudent, de pas s'être assez protégé, eh ben, on peut en subir les conséquences. Les conséquences, des fois, peuvent être lourdes. Pour d'autres, ou pour soi. Donc après, certaines personnes diront que certains modèles de sécurité sont trop contraignants, et ils choisiront d'utiliser de manière un peu plus lâche. C'est à chacun de décider ce qu'il veut utiliser, de soi-même faire un compromis entre ce qu'il peut utiliser et à quel point il peut le considérer comme sûr. Les utilisateurs Facebook ont fait un compromis. Ils ont mis leur vie privée sur le net. Bon, c'est un compromis parmi d'autres. Niveau de l'utilisabilité, il n'y a rien à redire. Je veux dire qu'il n'y a pas besoin de se préoccuper de rien. Niveau protection des données personnelles, un peu plus. Mais il n'y a pas que ça. Hein. Je veux dire qu'il y a utiliser un téléphone Android, donner toutes les données à Google, utiliser Gmail. Bon. J'aimerais juste revenir sur Gmail. Gmail, enfin, c'est quand même quelque chose d'impressionnant. Je veux dire que outre de confier ses mails à un prestataire extérieur, parce que ça peut arriver, on se dit, soi-même, on n'a pas envie de gérer ses mails. On les confie à un prestataire extérieur. Mais la question, c'est, on la confie à un prestataire extérieur dont le cœur de métier est la recherche d'informations. Dont le cœur de métier est extraire l'information pertinente parmi un lot d'informations. C'est-à-dire qu'en plus, le choix du partenaire extérieur est quand même assez étrange, je trouve. Donc, tout ce que je vais raconter ici, si vous utilisez, par exemple, quelque chose comme Gmail, utilisez GPG, ça servira à rien, mais vraiment, complètement. Donc, il y a deux niveaux. Il y a d'abord, avant de protéger ces données, il faudrait éviter de les donner à d'autres. Parce qu'une fois qu'on les a données, les protéger, ça sert à rien. Faut être clair. Donc, maintenant, je vais parler un petit peu de ce que nous permet la loi, de ce que nous propose la loi. Donc, la Déclaration des droits de l'homme, un texte assez joli, hein, nous dit, nul ne sera logé d'immixtation arbitraire dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteinte à son honneur ou sa réputation. Toute personne a le droit de la protection de la loi contre de telle immixtation ou de telle atteinte. Bon, ça c'est joli, c'est beau, mais en pratique, faut le faire nous-mêmes. En pratique, si on compte juste sur la loi pour nous protéger, ça suffit pas. Alors, heureusement, la loi, depuis 2004, nous en donne les moyens. Elle nous dit, l'utilisation des moyens de cryptologie est libre. Alors ça, c'est quelque chose de bien. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, pour utiliser des clés d'une taille supérieure à une taille donnée, il fallait les remettre à un tiers de confiance. Tiers de confiance, c'est pas dans le sens où vous lui faites confiance, c'est dans le sens où l'État lui fait confiance pour lui donner la clé si nécessaire. Donc, actuellement, on peut se protéger. Alors, faut pas se leurrer, c'est pas pour nous, citoyens, que l'usage de la cryptologie est libre. C'est pour les intérêts économiques, pour que les entreprises puissent se protéger. Bon, nous, on en profite, donc on va en profiter. Alors, ce qu'on entend très souvent, c'est une phrase, mais qui a le don de me mettre hors de moi. Donc, les gens qui le disent, soit ne savent pas comment je réagis, soit c'est une tentative de meurtre, pour que je fasse une crise cardiaque. C'est « je n'ai rien à cacher, donc ces moyens sont inutiles ». Alors, il y a énormément de variantes à cette phrase. Je vais pas toutes les faire. Mais il y a quelques réponses possibles. C'est, je me demande si chez vous, vous avez des rideaux. Si vous avez rien à cacher, vous pouvez tout ouvrir. C'est, si vous avez rien à cacher dans votre correspondance privée, vous pouvez publier l'intégralité de votre correspondance privée. Je remarque que si vous êtes sur Gmail, c'est déjà ce que vous faites. Et enfin, surtout, c'est le pire, ce choix n'est pas révocable. C'est-à-dire qu'actuellement, les erreurs que vous faites aujourd'hui, elles pourront peut-être vous porter préjudice dans 10 ans. Dans 10 ans, quand vous chercherez un emploi, quand vous aurez un poste important, ou alors quand vous serez chômeur, quand vous voudrez autre chose, quand vous voudrez évoluer, ou alors ne pas évoluer et justement vous régresserez, on vous ressortira des choses qui auront pu fuiter aujourd'hui. Demain, vous ne saurez pas quel sera le gouvernement. Vous ne saurez pas si on sera sous un régime totalitaire. Vous ne saurez pas si vous aurez besoin d'aller dans un régime totalitaire. Donc, il y a quand même un aspect important, c'est que aujourd'hui, vous pouvez considérer qu'il n'est pas nécessaire de vous protéger, mais est-ce que les informations d'aujourd'hui ne pourront pas vous être préjudiciables demain? Et enfin, les occupations d'identité, ça j'en ai parlé, donc notamment, alors des mails de banque, mais enfin, ça serait tellement génial d'avoir des mails de banque signés, mais vous pouvez aussi envoyer un mail en changeant un champ from. Ça casse pas de rembattre un canard, et 95% des utilisateurs se font avoir. Je trouve ça lamentable. Je veux dire que se faire avoir par un champ from d'un mail, ça fait peur. Mais quand on voit que dans une école d'ingénieurs, que je ne vais pas citer, 10% des personnes répondent à un mail de phishing en donnant leur login et leur mot de passe, parce que dans le champ from, il y a service informatique, je ne m'étonne plus de rien. Donc, on va parler de moyens de cryptologie. Donc, sur les moyens de cryptologie, ce qu'il faut savoir, c'est que même si vous protégez, la loi peut vous demander d'ôter votre protection. Donc ça, c'est important à savoir avant. Après, vous pouvez décider ce que vous voulez faire. Donc, est puni de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende, le fait de ne pas donner sa clé privée. Quand une autorité vous la demande. Alors on appelle ça convention secrète de déchiffrement. Voilà, c'est ça. Et ce qui est absolument dangereux, c'est qu'on ne demande pas que vous ayez commis un crime ou un délit. On demande que vous soyez susceptible d'avoir commis un crime ou un délit. C'est-à-dire que les enquêteurs vont juger que ils ont suffisamment d'informations sans justification autre pour penser que vous puissiez avoir commis un crime ou un délit, donc vous demandez vos clés privées. Et justement, si vous avez commis un crime ou un délit, c'est-à-dire que en plus, les peines sont plus élevées. Alors après, faut savoir, ça dépend des données que vous voulez protéger. Vous pouvez considérer que vous risquez 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende si les données que vous protégez valent plus que ça. C'est un choix. Encore faut-il le savoir. Et enfin, sur la grande limitation, c'est que ce dont je vais parler, OpenPGP, ça protège les communications et pas l'existence des communications. C'est-à-dire que le fait qu'une communication ait existé entre deux personnes n'est en aucun cas inconnu avec OpenPGP. Alors, selon certains moyens, je vais en parler tout à l'heure, il peut l'être, mais c'est pas le cas général. Donc un exemple assez récent, c'est l'histoire des fadettes du monde. C'est-à-dire que les enquêteurs ont trouvé entre un journaliste du Monde et une juge d'instruction des communications. Ils n'ont pas trouvé le contenu des communications, ils ont trouvé l'existence des communications grâce aux factures détaillées de l'opérateur. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu accès au contenu, mais grâce à l'existence des communications, ils en ont déduit les choses. Donc posez-vous la question, c'est même si je protège mes communications, est-ce que l'existence des communications n'est pas en soi préjudiciable ? Alors maintenant, je vais directement rentrer dans le vif du sujet, je vais vous parler de cryptographie asymétrique. Alors pourquoi on utilise de la cryptographie asymétrique et pourquoi pas de la cryptographie symétrique ? Donc la cryptographie symétrique consiste de la manière classique à chiffrer avec une clé pour un correspondant. Si vous avez N personnes, en cryptographie symétrique, vous allez avoir autant de clés que de couples de correspondants. Si vous partagez des clés, d'autres personnes pourront s'y mixer dans vos conversations. En cryptographie symétrique, chaque personne à sa paire de clés privée publique. Donc, au niveau de l'usage, on a n clés à la place de 1/2 de n-1 fois n. Et outre le nombre de clés, la complexité d'usage, la facilité d'usage, fait qu'on peut communiquer avec quelqu'un sans avoir au préalable directement échangé sa clé avec lui. Ça, j'en parlerai plus tard. Alors, voici mes schémas, donc je suis désolé, mais mes schémas ont été tracés au critérium sur une feuille de papier blanc. Les schémas en TXZ, je sais faire, mais ça m'énerve. Donc, voilà. Donc, comment marche le système général du chiffrement ? Donc, le chiffrement, donc c'est là où j'aurai besoin de la baguette. Donc, le chiffrement, on commence. Accessible à tout le monde, nous avons la clé publique d'Alice et la clé publique de Bernard, ici présent. Nous avons un message, Alice a sa clé privée, Bernard a sa clé privée. Alice qui veut envoyer un message à Bernard, je n'ai pas étudié le contenu du message pour raison de ne pas choquer les gens ici présents, chiffre le message. Donc elle chiffre le message uniquement avec la clé publique de Bernard. Elle sait que la clé publique de Bernard est la clé publique de Bernard. Le message est chiffré, elle l'envoie. Carole qui est sur le chemin voit un message chiffré. Rien d'autre. Elle ne peut rien voir d'autre. Bernard reçoit un message chiffré et il déchiffre le message uniquement avec sa clé privée. Donc, pour ceux qui ne connaissaient pas la cryptographie asymétrique, voilà le principe. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut l'utiliser dans l'autre sens. C'est-à-dire que changer le sens des flèches ici, ici et ici, et ça correspond à un mécanisme de signature. C'est-à-dire qu'en chiffrement, seule la clé privé est capable de déchiffrer ce que la clé publique a chiffré, en signature c'est l'inverse. J'en parlerai tout à l'heure. Enfin, maintenant. Donc, sur le concept général de signature, on signe avec sa clé privée. C'est-à-dire qu'on authentifie un message uniquement avec sa clé privée. On ne signe pas, en règle générale, le message. Pour des raisons de longueur, mais aussi qu'on veut signer des méta-informations en plus. On va signer un condensat du message. condensable qui pourrait être variable selon OpenPGP qui change. Chaque personne, dans sa clé, peut définir des préférences d'algorithme de hachage. Je sais pas comment on dit algorithme de calcul de condensat en français. On vérifie la clé en retrouvant la signature, en retrouvant le condensat à partir de la signature et en calculant le condensat. Donc je vais faire un dessin. Bien entendu. Donc toujours mes dessins en critérium. Donc Alice qui veut envoyer son message obtient un hash de son message. Alors en réalité, elle n'obtient pas un hash que du message, elle obtient un hash contenant aussi des méta-informations, c'est-à-dire notamment un neurodatage de l'heure du message. À partir de ça, elle chiffre le hash à partir de sa clé privée. Donc maintenant, on a le hash chiffré qui peut transiter sur le réseau. De toute façon, même s'il est altéré, l'étape suivante échouera. Ce qu'il faudra voir, c'est que ici, le hash est déchiffré avec la clé publique. Seule la clé privée, ici, a été capable de chiffrer ce que la clé publique déchiffre. Si on utilise une autre clé privée, ou si on altère le message, ici, on ne sera pas capable de faire cette étape-là. Le message qui transite par le réseau, donc ici, il transite en clair, c'est-à-dire qu'on a juste un mécanisme de signature, on peut le cumuler avec le chiffrement que je vais détailler tout à l'heure. Grâce au message, on calcule un hash, on compare ces deux hashes, et si le message a été altéré, alors ces deux hashes sont plus identiques, alors on en déduit que la signature est fausse. Enfin, dans ce cas-là, la signature est vraie, mais le message a été altéré, donc la signature ne signe plus le message tel qu'il est. Donc si ma banque m'envoie un message en me disant « clique sur ce lien et rentre tes identifiants », par ce mécanisme, moi je clique, si j'ai signé ma banque. Le problème, c'est que même pour obtenir l'empreinte d'un certificat SSL au niveau de sa banque, c'est la croix et la bannière. Alors, une signature, dans le cas général, elle est révocable. Ce n'est pas le cas de toutes les signatures. On peut définir une signature non révocable. Du moins dans le standard OpenPGP. Ces implémentations, des fois, ne permettent pas de définir certaines signatures, la non-révocabilité de certaines signatures. Et une révocation, révoquer une signature, ce n'est que signer un certificat de révocation. Donc on signe soi-même le fait, un message disant « ne considérez plus cette signature comme valide ». Et enfin, dans OpenPGP, on a plusieurs modes de signature, donc la signature de données binaires, ça qui est assez simple, et la signature de données texte. Donc la signature de texte, au final, c'est juste renormaliser le texte, en particulier renormaliser les retours à la ligne, puisque en fonction des différents systèmes d'exploitation, certains plus ou moins embêtants, les retours à la ligne sont plutôt détruits, on va dire ça comme ça. Et donc, les retours à la ligne sont normalisés avant une signature classique de données binaires. Et dans le standard OpenPGP, donc ça c'est quelque chose de complètement séparé, j'ai oublié le vSpace. Donc il y a plusieurs niveaux de signature. Donc les niveaux de signature vont du niveau une signature simple, c'est-à-dire sans information supplémentaire, à une signature exhaustive où on a tout vérifié. Le problème, c'est que toutes les implémentations d'OpenPGP que j'ai regardées ne prennent pas en compte ces différents niveaux de signature. Généralement, elles les traitent tous pareil et signent tout avec le même niveau de signature. Donc, dans les implémentations, malheureusement, une signature est une signature. C'est dommage que ça n'ait pas été mis en pratique. Au niveau du chiffrement, donc je vais d'abord vous parler du concept général du chiffrement hybride et du chiffrement sans les signataires explicites. Donc ça, c'est aussi une remarque énervée. Donc, le concept général, on chiffre uniquement avec sa clé privée, avec la clé publique. On veut signer pour quelqu'un, on récupère sur le réseau la clé publique du destinataire. On a un moyen de vérifier que la clé publique du destinataire est la clé publique du destinataire. On va le voir plus tard. Avec la clé publique du destinataire, on chiffre le message, et ce message chiffré avec la clé publique du destinataire ne sera déchiffrable uniquement avec la clé privée du destinataire qu'il n'est pas censé avoir communiqué. Et enfin, pour résumer, seule la clé privée est capable de déchiffrer ce que la clé publique a chiffré. C'est exactement la même phrase que tout à l'heure, sauf que j'ai changé l'ordre des mots. Donc, un petit schéma sur le chiffrement hybride, parce qu'en réalité, on n'utilise pas un chiffrement asymétrique, mais on utilise un chiffrement hybride. Donc ici, on a un générateur de nombres aléatoires qui nous génère une clé de session. C'est une clé qui va avoir une durée de vie extrêmement courte, c'est-à-dire que dès qu'on va avoir fini, on va l'acheter. On a la clé de session. Mais la clé de session, qu'est-ce qu'on fait? On chiffre la clé de session avec... Pourquoi il y a deux flèches, là? Je crois que je me suis complètement drogué là-dessus. Ah oui, oula. Donc, je chiffre la clé de session avec la clé publique de Bernard. Ici. Donc ici, j'ai la clé de session chiffrée avec la clé publique de Bernard. Je chiffre la clé de session avec la clé publique d'Alice. Donc ici, j'ai la clé de session chiffrée avec la clé publique d'Alice. C'est bien beau, mais moi, j'aimerais bien avoir mon message maintenant. Et mon message, je le chiffre avec la clé de session. Et tout ça, c'est ce que j'envoie. Alors, quel est l'intérêt du chiffrement hybride? Alors, disons, quel est le désintérêt du chiffrement asymétrique? Sa lenteur et sa complexité. Donc, on va servir du chiffrement asymétrique uniquement pour chiffrer les clés de session. Et le cœur du message, on va le chiffrer avec la clé de session. Quel est l'autre avantage de ça? C'est quand on veut envoyer un message à N destinataires, on multiplie cette partie-là par N, qui est au final assez petite, et ce qui est gros, c'est le message chiffré, ici.
C'est le chiffrement symétrique.
C'est le chiffrement symétrique pour le message, complètement, oui. Alors, on appelle ça le chiffrement hybride, au final, ça a toutes les caractéristiques du chiffrement asymétrique. Pour déchiffrer, donc ici, le message a été adressé à Alice et Bernard. C'est Bernard qui va le déchiffrer. Donc, pour le déchiffrer, Bernard va prendre la clé de session chiffrée qui a été chiffrée pour lui. Il va la déchiffrer avec sa clé privée. Il va obtenir la clé de session. Et une fois qu'il a la clé de session, il va pouvoir prendre le message chiffré et le déchiffrer avec la clé de session. Parfait. Et enfin, maintenant, je vais parler du chiffrement sans destinataire explicite. Donc, alors là, c'est là où je vais faire une parenthèse sur GNU-PG. Donc, il s'agit d'un chiffrement hybride, donc classiquement, sauf que on va cacher à l'intérieur de la clé de session chiffrée pour qui elle est destinée. C'est-à-dire qu'on a un message chiffré sans dire pour qui. Normalement, le standard dit que les implémentations, lorsqu'elles rencontrent ça, doivent essayer toutes les clés privées à leur disposition pour déchiffrer le message. Bon, il se trouve que j'ai pas trouvé comment faire avec GPG. Et j'ai pas eu le temps de bricoler un paquet OpenPGP à la main pour faire ça. C'était dans mes projets. Comme ça, j'ai pas trouvé comment faire, mais j'ai pas eu beaucoup de temps. Merci. Mais s'il permet de le faire, c'est très bien. Alors normalement, les implémentations devraient déchiffrer, et justement, le créer, c'est moins sûr dans le standard. Donc si elle est capable de le chiffrer, j'espère qu'elle sait déchiffrer. Alors, sur les clés OpenPGP, donc maintenant je vais parler d'OpenPGP après avoir introduit à la main, avec des dessins, les concepts de signature et de chiffrement. Donc je vais d'abord vous parler de clés publiques, clés privées, puis les identités, les celsig, les sous-clés, et enfin, ce qui est utile pour vérifier qu'une clé est bien celle provient bien de la personne qu'elle prétend être, les signatures des tiers. Alors, clés publiques, clés privées. Alors, la clé publique, ça ne va contenir que les informations de l'algorithme hybride, asymétrique, enfin, la partie publique d'information de l'algorithme de chiffrement asymétrique. Donc, pour RSA, c'est N et E, suivant les notations couramment utilisées. La clé privée va contenir que les informations privées. Alors, en pratique, dans le standard OpenBGP, on définit aussi de stocker d'autres choses, notamment pour la rapidité des calculs, et pas avoir à tout recalculer. Et enfin, à une clé, on associe un identifiant et un fingerprint. Donc, le fingerprint n'est que le condensat SHA-1 de la clé publique, mais attention, que de cette partie-là. Quand je dis clé publique, je ne parle pas de la clé publique telle que vous la connaissez avec NoPG. Je parle que de cette partie-là. Et enfin, l'identifiant, c'est les 4 dernières octets du fingerprint. Contrairement aux clés OpenBGP version 3, en version 4, elles sont déduites du fingerprint. Version 3, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, quand vous importez les clés, GPG vous grogne dessus en vous disant que vous utilisez une clé qui utilise MD5, comme l'algorithme condensat. Et il a raison de vous grogner dessus. Et surtout, l'identifiant est déduit à partir du module. Donc le gros problème de ça, c'est qu'on peut séparer la recherche d'une collision d'identifiant et la recherche d'une quasi-collision au niveau du fingerprint. Avec cette version-là, de déduire l'identifiant de la fin du fingerprint, on oblige la recherche d'une clé avec un fingerprint proche de parcourir aussi tout l'espace des identifiants. Alors, associé à une clé, on associe des identités. Donc, une identité, c'est quoi? C'est une personne, c'est un rôle, c'est une place, c'est un statut dans une entreprise, c'est pas forcément différents noms. Personnellement, j'ai mon identité en tant que doctorant et j'ai mon identité en tant que geek. Les identités, c'est celles qui sont vérifiées par les tiers. C'est-à-dire que les tiers sont pas censés seulement vérifier le nom et le prénom, mais ils sont censés vérifier l'intégralité de l'identité. C'est-à-dire qu'ils sont censés aussi vérifier que l'adresse email pointe bien vers la personne. Notamment, il y a des outils qui permettent de le faire lorsqu'on fait des signatures. Donc, maintenant, je vais parler d'une catégorie particulière de signatures, c'est les signatures qu'on se fait à soi-même. Quel intérêt de signer à soi-même? On est capable, comme ça, d'authentifier soi-même les différentes composantes de sa propre clé. C'est-à-dire que les identités, pour être sûr que ce soit nos propres identités, après la clé publique, nous allons mettre nos identités que nous allons nous-mêmes signer. Et c'est justement dans les propriétés de la signature qu'on va stocker les informations. C'est-à-dire qu'on va stocker l'information de validité. La validité d'une identité va être la validité de la signature. Et enfin, pour révoquer l'identité, on révoquera la signature. De même, quand on va associer une sous-clé à sa clé principale, on va auto-signer sa sous-clé, et la validité de cette sous-clé sera la validité de la signature de la sous-clé. Et enfin, maintenant, je vais parler des sous-clés. Donc, alors, la sous-clé de chiffrement. En règle générale, la clé principale n'est qu'une clé de signature. Alors, beaucoup de gens utilisent GPG aussi pour chiffrer les communications. Donc, dans ce cas-là, OpenPGP, pour chiffrer les communications. Dans ce cas-là, ils ont une sous-clé de chiffrement. Donc, c'est ce qui permet de chiffrer et déchiffrer. Et la sous-clé de chiffrement, on la renouvelle indépendamment de la clé principale. Et enfin, on peut avoir des sous-clés de signature. Donc, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de gens qu'on utilise. Enfin, pas assez. Pourtant, la sous-clé de signature a beaucoup d'avantages. C'est-à-dire qu'on va signer avec la sous-clé de signature les données et la clé principale ne servira à signer que les sous-clés, les identités et les tiers. Donc, quel est l'intérêt d'utiliser une sous-clé? L'intérêt majeur d'utiliser une sous-clé, c'est qu'on peut se débarrasser de la clé principale. Sur votre machine, vous avez votre sous-clé de chiffrement, votre sous-clé de signature, mais la partie privée de la clé principale est ailleurs. Ailleurs, idéalement, pas forcément sur une machine allumée, pas forcément dans un endroit connu. Certains conseillent la banque, sauf que la banque, les forces de l'ordre peuvent vous demander d'ouvrir votre coffre, voire le forcer. Donc après, ça dépend qui vous a protégé. Pardon ? Elles sont de notre côté, oui, mais en règle générale, elles sont de notre côté. Hein. J'essaye juste de donner tous les avantages et les inconvénients. J'ai eu pendant longtemps ma clé privée dans un coffre à la banque. Je n'ai plus de coffre. Donc ma clé privée n'est plus dans un coffre à la banque. Donc la signature des tiers, donc ici je devais faire un dessin, sauf que j'ai oublié de le scanner hier soir, et donc il n'est pas là. Je suis désolé. Est-ce qu'il est possible de remonter l'écran ? C'est vrai que mettre le tableau sur l'écran, c'est... Un peu plus lent, ça serait mieux. Voilà. Donc, signature des tiers. Comment ça va se passer ? Ce que vous allez faire, c'est que vous avez Bernard. Bernard, il a une clé publique. Il a une identité. Il a une self-sig. Alice, de son côté, a une clé publique. Elle a une identité, une self-sig, mais ça je m'en fous. Alice a une clé privée. Bernard a une clé privée. Qu'est-ce qui se passe ? Quand Alice veut signer Bernard, Bernard va donner à Alice son fingerprint. Donc, comment il va lui donner son fingerprint ? En règle générale, de la main à la main. D'autres moyens pour donner un fingerprint peuvent être utilisés. Si on est sûr de ces moyens-là. À vous de voir. C'est-à-dire que, dans une certaine mesure, on peut considérer le courrier postal comme sûr vis-à-vis de certains risques. Tout dépend de ce que vous voulez protéger. Par exemple, le courrier postal, c'est ce qui a été utilisé pour valider les clés de GPG de Fédérez. Bon. Elle donne son fingerprint. Je rappelle que dans le nuage, nous avons la clé publique d'Alice et la clé publique de Bernard. Alice récupère la clé publique de Bernard. Elle la hache. Elle obtient le FPR, le fingerprint. Elle compare les deux fingerprints. C'est là qu'on voit quand je fais des dessins qui sont scannés, en réalité je me reprends 4 fois parce que j'arrive jamais à placer les cases. Si les fingerprints sont corrects, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle prend la clé publique et l'identité qu'elle va récupérer, qu'elle va signer classiquement par la méthode de tout à l'heure, et elle obtient la signature. Alors après, qu'est-ce qu'elle fait de la signature ? Ça, c'est son bon vouloir. Soit elle peut directement l'envoyer dans le réseau, soit elle peut l'envoyer de manière personnelle à Bernard. Il est conseillé par certains, et c'est pas une mauvaise idée, d'envoyer la signature de chaque identité à l'adresse email correspondant à l'identité. Comme ça, ça permet de vérifier que l'adresse email est valide. Et si Bernard reçoit bien ce mail, il a la signature, libre à lui de la publier ou pas. Aussi, une signature, elle n'est pas forcément publiée. On peut signer localement sans la publier. C'est un choix. Donc pour résumer ce que je viens de dire, sur toute cette partie-là, je vais redescendre la bête. Il s'arrête tout seul ou il tombe ? Non, mais des fois ça arrive hein, donc la clé publique, ce que vous appelez clé publique quand vous travaillez avec une clé publique OpenPGP, En réalité, c'est tout ça. Ce n'est pas une clé publique. La clé publique, c'est que la première partie en haut. Tout le reste, c'est des informations utiles, mais qui sont en plus de la clé publique. Donc, il y a les identités. Il y a les identités. Il y a les self-sig. Et il y a les signatures des tiers. Vous pouvez avoir des sous-clés qui sont auto-signées. Et enfin, donc vous, quand vous dites « je vais envoyer ma clé publique sur le réseau », généralement, vous dites « je vais envoyer tout ça ». Et enfin, la clé privée. Alors, votre clé privée, en réalité, c'est quoi? C'est la clé publique, telle qu'on l'a vu précédemment, à l'intérieur. Alors, elle peut être réduite à son plus simple élément, c'est-à-dire les signatures des tiers, ça ne nous intéresse pas beaucoup. Et enfin, les parties privées, de la clé principale et les différentes sous-clés. Donc, un des mystères, c'est que GNUPG n'est pas capable, à partir de la clé privée, de reconstruire la clé publique, alors qu'elle est dedans. Faut travailler à la main avec GPG Split pour la retrouver. Bon, en même temps, quand on a perdu sa clé publique, qu'on a toujours sa clé privée, son usage est un peu particulier. Et maintenant, je vais vous parler de serveur de clé. Donc, précédemment, on avait un nuage au-dessus. Maintenant, on va voir ce qu'il y a dans le nuage. Donc, sur le principe général, un serveur de clé. Un serveur de clé, ça stocke des clés publiques. Donc, là, clé publique, c'est au sens large. Ça fonctionne de manière additive. Donc ça, c'est un point très important des serveurs de clé. C'est que le serveur de clé, vous ne pouvez pas effacer les informations du serveur de clé. Sauf si vous maîtrisez le serveur de clé en question. Et enfin, on dit souvent un serveur de clé, lequel importe peu, puisque les serveurs sont synchronisés entre eux. Sauf certains qui ont certains problèmes, des fois déconnectés du monde réel. Mais c'est plus des problèmes d'administration des serveurs que les problèmes de concept du réseau. Alors, comment fonctionnent les serveurs de clé? Vous avez votre clé. Il y a la clé que connaît le serveur. Pour le serveur, vous avez une clé publique, une identité. Or, vous envoyez une clé qui est une identité supplémentaire. Celle-là. Qu'est-ce que va faire le serveur? Il va fusionner les deux clés et récupérer l'identité supplémentaire. Si vous avez une autosignature plus récente, il va l'écraser. Et enfin, si vous avez une sous-clé supplémentaire, que je n'ai pas indiquée, non, j'ai oublié d'en mettre, j'ai oublié, il va l'intégrer. Mais dans tous les cas, vous ne pourrez pas, en envoyant une nouvelle clé, quand vous allez supprimer une sous-clé par exemple, supprimer la sous-clé du serveur. Donc le serveur fonctionne de manière additive. Donc ça c'est quelque chose à bien avoir en tête. Le fait de fonctionner de manière additive fait que vous ne supprimez pas une clé quand vous n'avez plus besoin, quand elle a été compromise, vous la révoquez. C'est-à-dire que vous signez quelque chose disant ne l'utilisez plus. Et enfin, je vais parler de réseau de confiance. Donc le réseau de confiance, c'est pas purement et simplement défini dans le standard OpenPGP. Donc c'est quelque chose qui est fait dans les implémentations, mais dans différentes implémentations. Donc, est tombé. Donc la confiance. Alors, pourquoi devons-nous faire confiance? Parce que si je veux communiquer avec beaucoup de gens, soit j'ai un employeur qui me paye cher pour que j'aille visiter plein de gens et les signer un à un. Soit j'utilise un réseau, et dans ce cas-là, j'utilise une certaine notion de transitivité de la validation. Et enfin, la grande question à se poser, c'est de quelle manière devons-nous faire confiance? Est-ce que je dois faire confiance à personne? Dans ce cas-là, j'ai d'autres choix que de voyager pour aller voir les gens. Est-ce que je fais une confiance partielle, c'est-à-dire que j'aurais besoin de plusieurs informations concordantes pour considérer quelque chose de valide? Ou est-ce que je fais une confiance totale? Dans ce cas-là, je m'en remets à d'autres. Et je laisse aux autres la possibilité de me berner. une confiance totale et d'une confiance totale. Alors, dans le modèle de confiance PGP, on a deux niveaux de confiance. La confiance entière et la confiance marginale. La confiance entière dit que la confiance entière dit que pour valider une clé, dans le modèle de confiance PGP, si on a une confiance entière qui l'a validée, alors nous on la considérera comme valide. La confiance marginale dit, si on a trois clés qui l'ont considérée comme valide, alors nous on la considérée comme valide. À chaque clé, on associe une confiance. Alors, sur le choix de la confiance, alors, si on a accordé une confiance entière, pour moi, avec ce modèle de confiance-là, c'est un mauvais choix. Ça veut dire que on laisse à quelqu'un l'intégrale possibilité de nous duper, de se faire passer pour quelqu'un d'autre. On peut décider d'accorder des confiances entières, mais dans ce cas-là, à mon sens, on doit changer les niveaux. Par exemple, trois clés valides pour les confiances marginales, deux clés valides pour les confiances entières. Mais le 1 pose mentalement problème. C'est-à-dire que même si quelqu'un est socialement très intégré, socialement notre ami, on ne sait pas ce qu'il y a dans sa tête. C'est dangereux. Et enfin, selon le modèle classique PGP, le chemin maximal utilisable pour la validation, c'est-à-dire qu'il peut y avoir d'autres chemins, est longueur 5. C'est-à-dire qu'on s'interdit d'avoir une transitivité trop longue. En tout cas, c'est pas une limitation forte. Alors, deux choses, parce que le réseau est quand même assez fortement connecté, et aussi parce que, généralement, les personnes qui sont loin de nous au sens du réseau, on les connaît pas. Et si on les connaît pas, on va pas leur attribuer de confiance. Donc dans tous les cas, on n'atteindra pas forcément cette longueur de chemin. Alors là, j'ai une illustration. J'ai joué. Donc voici un réseau de confiance. Donc alors, les points bleus sont des gens, le point rouge est moi. Donc j'arrive dans un réseau de confiance. Donc là, les traits représentent des signatures entre les gens. Je considère que les signatures se font dans les deux sens. Moi, je suis isolé. Pour l'instant, j'ai signé personne. Je suis tout seul. Je fais confiance à personne, j'ai une validité de personne. Je signe quelqu'un. Je le représente en jaune. Ça veut donc dire que maintenant, je considère sa clé comme valide. Uniquement. Puis, je ne lui ai pas accordé de confiance. Puis, je vais signer quelqu'un d'autre. Je considère sa clé comme valide. Donc, si vous remarquez qu'à cette échelle-là, ça va pas aller vite. Mais à cette personne, je lui mets une confiance. Donc là, je vais représenter en vert. La femme de la vidéo, c'est que ça... Donc, en vert, maintenant, mais ça sert à rien, puisque j'accorde que des confiances marginales. Et donc, lui, pour moi, c'est toujours une clé inconnue. Et lui, c'est toujours une clé inconnue. Mais je participe à une seule partie, ou à une king signing partie, et donc je vais mettre à signer plein de gens. Donc je signe plein de gens, mais il se trouve que parmi ces gens-là, il y en a une partie que je connaissais. Dont je connaissais leur manière de signer, et auquel je pouvais avoir confiance. Donc je vais attribuer des confiances. Cette personne-là était un inconnu, donc je lui ai laissé la confiance comme ça. Ces trois personnes ont signé cette personne, même si je ne l'ai pas signé directement. Je considère sa clé comme valide. Mais cette personne, en vrai, je la connaissais. Et donc, je peux lui attribuer une confiance. Donc, je lui attribue une confiance. Maintenant, je lui attribue une confiance. Cette clé-là a été signée par cette personne que j'ai signée directement, à qui j'ai attribué une confiance. Cette personne que j'ai signée directement, à qui j'ai attribué une confiance. Et cette personne que je n'ai pas signée directement, mais que je connais, que je considère comme valide, et auquel j'ai attribué une confiance. Donc là, j'ai créé un nouveau lien. Ça n'a rien changé pour moi. Des personnes se sont vues en dehors. Elles ont été boire dans un bar sans moi. Et donc, ce nœud-là, il a deux personnes de valides auxquelles je fais confiance. Mais si je fais confiance à cette personne-là en plus, par exemple parce que je la connaissais, alors je lui ferai confiance. Alors, maintenant je vais m'arrêter là. Ce qu'il faut voir, c'est qu'ici, pour ce nœud, j'ai besoin de ce nœud, qui a besoin de ce nœud, qui a besoin de ce nœud. Donc ma longueur de chaîne maximale a été 4. Et encore, je suis dans un exemple ad hoc, qui ne représente pas un cas d'utilisation réel. Donc, 5, un chemin maximal de longueur 5, ça a l'air faible, mais c'est pas limitant. Comment je reviens? Ouais. Et enfin, maintenant, je vais parler de choses marrantes. C'est-à-dire la similarité des fingerprints. Donc ça, c'est j'avais joué un jour. Donc l'idée, c'est de se dire à quel point la vérification des fingerprints doit être poussée. Donc j'ai écrit quelque chose de dégueulasse en C pour aller vite. Et j'utilise OpenSSL à fond, puisque j'ai pas envie de m'embêter à implémenter les blagues avec RSA, avec gestion des grands nombres. Et je génère des clés à la chaîne. Donc pour générer des clés, je génère pas forcément cryptographiquement fortes, c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est en générer beaucoup. Je calcule les condensats et je garde les condensats qui sont les plus près. Donc la vraie clé de Nicolas Dandrimon est la première ou la deuxième, je sais plus. J'avais l'intention de les échanger, mais j'ai oublié. C'est la première. Donc j'ai dû oublier, oui, c'est ça. Donc sa vraie clé est la première. Donc j'ai trouvé, alors en réalité des clés qui ont le même identifiant, j'en ai trouvé des pelletées. Hein. Et j'ai choisi les clés qui ont les fingerprints les plus proches. Donc parmi celles qui avaient le même identifiant. Elle commence par 791F, j'ai gardé du 791A, 791DF, 791C. J'arrive pas à aller beaucoup plus loin. Mais j'ai une petite machine. J'ai une toute petite machine. Donc bon, alors... Tout ça pour dire qu'un fingerprint, ça se vérifie. Et surtout, vérifier la fin du fingerprint quand on a déjà vérifié l'identifiant, c'est dommage. C'est la même chose. Il y en a qui le font. Et on le vérifie complètement, totalement. Autrement, dans ce cas-là, autant utiliser MD5 et ce sera fini. Ok. Juste pour info, ça c'était les clés les plus près. Près au sens de confusion visuelle. J'avais une confusion visuelle qui allait en décroissant. Et je considérais par exemple que le 6 était facile, je sais plus quoi, était le 3 est facilement confondable avec le F ou le E, des trucs comme ça. Et donc, enfin, pour faire ça, j'ai utilisé 10 puissance 13 clés, donc c'est quand même quelques-unes. Mais donc pour conclure, alors. Ça, je reprends un peu mon introduction. Protéger sa vie privée, si on expose ses données privées par un autre moyen, ça sert à rien. Je me répète. Mais je veux dire que c'est tellement élémentaire que ça me sidère à chaque fois. Former les gens avec lesquels vous travaillez. C'est-à-dire que si vous envoyez des messages, que vous les signez, si la personne vous demande, ou même si la personne ne vous demande pas, expliquez-lui que ce qu'elle voit dans PGP MIM, c'est une signature électronique. Faites de la propagande. Pourquoi ? Parce que signer ces messages, si personne ne signe ces messages, ça ne sert à rien. Si personne ne signe ces messages, personne ne les vérifie. Ça ne sert vraiment à rien. Et enfin, n'oubliez pas que les États peuvent peut-être beaucoup de choses. Ça vous en servait à rien. Je vous rappelle juste que le premier employeur de mathématiciens au monde, c'est la NSA. Et que ses capacités de calcul sont données en hectares. Donc bon. Ne l'oubliez pas. Et maintenant, Pauline va vous parler, gentiment, peut-être, de la mise en pratique d'OpenPGP.
Enfin, Jean-Benoît, pardon. Et normalement, tu peux switcher. Donc en fait, là, on a vu les aspects conceptuels et théoriques du chiffre, enfin du chiffrement, donc sécurité personnelle, comme je l'ai introduit. Et Pauline va continuer sur Pauline Pommeret, qui est étudiante aussi à l'ENS, qui est membre actif du CRANS, et elle va nous parler donc de l'aspect plus pratique de GPG. Et je te laisse.
Donc avant de commencer, j'ai tout appris avec Jiben. Donc si vous avez des questions, c'est à lui qu'il faut les adresser, pas à moi. Parce que globalement, tout ce qu'il y a là-dedans, c'est tout ce que je sais. Et encore, je suis pas sûre de... Alors oui, en fait, et je vous préviens, il y a énormément de texte sur les slides parce que c'est pour un séminaire technique aussi. Ça fait office de séminaire technique pour les membres actifs du CRANS, en particulier les apprentis. Et du coup, il faut qu'ils puissent bosser dessus après. Voilà. Donc la base, pour les apprentis qui ne le savaient pas, c'est que quand on reçoit un email avec une personne provient d'une adresse email, on n'est absolument pas certain que cette personne à qui est censée appartenir l'adresse email nous l'a effectivement envoyée. On s'est beaucoup amusé avec ça au début d'année. Et un email est aussi envoyé en clair sur le réseau, du coup c'est assez facile de retrouver ce que vous avez écrit et de lire à votre insu, enfin pas vraiment votre insu puisque vous êtes censé savoir qu'on peut le faire. Et donc on va zapper les premières salles qui sont pour les apprentis qui n'auraient pas assisté à la conf de JBEN. Et donc on va commencer avec GPG. Donc GPG, pour GNU Privacy Guard, et c'est une des implémentations d'OpenPGP, comme l'a dit JBEN, et on va voir comment s'en servir. Du coup, donc c'est à clé publique, comme l'a dit JBEN, avec une clé publique que l'on distribue à toutes les personnes avec qui on a envie de communiquer de façon plus ou moins... sécurisé, entre guillemets, et une clé privée qu'on garde jalousement secrète, comme vous l'a dit JBEN, et vous allez voir, la paranoïa peut aller très loin. Donc, pour commencer, on va générer une paire de clés, privées et publiques. Donc, pour cela, on utilise GenKey. Donc, c'était un peu petit. Voilà, donc aussi GPG-GenKey. Et là, on vous propose un premier choix. Donc, on vous demande quel type de clé vous voulez. Donc, vous avez le choix entre RSA et DSA. RSA est le plus utilisé, en particulier dans le commerce électronique. Et il est fortement conseillé d'utiliser RSA par l'ANSSI. Et c'est qui le conseille. JBEN aussi, donc vous pouvez lui faire confiance. Il faut l'utiliser. Et de toute façon, c'est la valeur par défaut. Donc, on peut espérer que ceux qui ont GPG, on peut leur faire confiance. Le deuxième choix que vous avez, c'est la taille de la clé. Donc, standard, c'est entre 2048 et 1096, sachant que plus la clé est longue, plus elle est dure à casser. En contrepartie, plus elle est longue, plus elle est lourde. Mais comme JBEN a expliqué, il s'agit de chiffrement hybride. Du coup, ça n'a pas une trop grosse importance, mais qu'on peut se permettre d'avoir des clés longues. Et du coup, il est fortement conseillé d'utiliser des clés 4096. La NSSI dit que pour un usage jusqu'à 2020, il vaut mieux utiliser une clé 4096. JBEN le dit aussi. Donc... Et donc, par contre, il va falloir la générer. Et plus elle est longue, plus elle est longue à générer. Donc, il va falloir générer l'entropie. Donc moi j'ai essayé de générer l'entropie en copiant travail dans travail 2, ça n'a pas marché. En revanche avec musique ça a marché. Donc choisissez bien ce que vous déplacez et ce que vous copiez. Le choix suivant c'est la date d'expiration. Donc parce que une clé peut avoir une validité limitée. Donc la validité d'une clé c'est le temps au bout de laquelle les correspondants ne pourront plus utiliser la clé pour chiffrer des données qu'ils vont vous envoyer et vous pourrez pour vérifier les signatures. Donc, vous voyez, il y a plusieurs délais auxquels vous pouvez de validité que vous pouvez attribuer. Vous pouvez attribuer un temps de vie illimité. Ça risque d'être très problématique si vous perdez votre clé privée, si on vous la vole, si vous oubliez votre mot de passe pour tout un tas de raisons. Il est fortement déconseillé d'avoir un temps de vie illimité. Il vaut mieux choisir un temps de vie en mois. Je crois que JBEN m'a dit 2-3 mois. sachant que tout n'est pas perdu une fois que ça arrive à expiration, vous pouvez la renouveler tant que vous pensez que la clé n'est pas compromise. Donc ensuite, on va vous demander de donner une identité à votre clé, et c'est les informations qui vont apparaître au moment où vous allez vérifier les signatures. Et donc, il faut que vous fassiez attention à l'identité que vous créez à ce moment-là. Elle dépend fortement du contexte. Vous n'allez pas utiliser exactement la même identité, typiquement pas la même adresse mail. Si vous vous adressez à votre employeur, à vos amis, aux CRANS, donc faites attention. Et ensuite, là, il va falloir choisir la phrase de passe. Et donc, il faut faire attention parce que c'est la seule et unique protection de la clé privée si quelqu'un possède le fichier qui contient votre clé privée. Du coup, c'est le point faible de GNUPG, c'est vous, la phrase de passe. échec, que vous allez choisir. Donc, idéalement, elle ne contient pas de mots du dictionnaire. Vous mélangez les cases des caractères alphabétiques et vous utilisez des caractères non alphabétiques. Et en plus, vous avez de la chance, sa taille est illimitée. Donc, si vous voulez avoir une phrase de pas de 360 caractères, vous pouvez. Ensuite, il faut juste la retenir. Mais Jiben peut vous dire que vous avez le droit de mettre des mots du dictionnaire avec tout un tas de conditions. Vous pouvez lui en parler après. J'ai eu une brillante démonstration hier soir. Voilà. Donc... Merci Gaëtan. Ensuite, une fois que vous avez généré vos clés, le premier truc à faire, c'est de penser que vous allez avoir envie de la révoquer. Et donc, assez rapidement. Donc vous créez, dès que vous avez généré votre paire de clés, vous générez un certificat de révocation avec en faisant GPG... -gen-revoke qui génère un certificat de révocation qui signifie qu'on ne peut plus utiliser la clé publique. Donc vous allez générer on peut générer deux types de certificats de révocation différents. Un vous publierez en cas d'oubli de mot de passe ou de perte de la clé, et un en cas de compromission vous pensez que votre clé a été compromise. Ça permet aux personnes qui vont recevoir qui vont voir les certificats de révocation, de se dire que, enfin, si elle a été compromise, c'est peut-être que tous les échanges qui ont eu lieu avant ont été compromis, et de faire attention a posteriori à ce qui s'est passé. Donc il faut, pour ça, vous mettez dans votre le nom, dans votre output de la commande, vous mettez révocation, et révocation type, si vous avez révocation oubli ou révocation compromission. Alors, et ensuite, maintenant, on va apprendre à manipuler ces clés, parce qu'on ne s'est pas emmerdé à générer une clé pour rien, enfin des clés pour rien. Donc, il faut les gérer correctement. Jiben vous l'a dit au moment de sa conf. C'est seul le fait que vous gérez correctement vos clés assure que votre trousseau de clés va être intègre et que finalement on peut vous faire confiance dans ce que vous faites. Alors pour commencer, il faut que vous appreniez à afficher les caractéristiques de votre paire de clés. Donc elle est composée d'une portion publique de la clé de votre clé principale, des portions publiques des clés secondaires de signature et de chiffrement, comme on a parlé JVN, de tous les identifiants utilisés, associés à la clé, adresse mail, de création, d'expiration, photo, degré de confiance, etc. Et pour les afficher, vous faites la façon la plus simple, c'est vous faites -- edit keys et l'identité de la clé. Ensuite, il faut pour les intégrités des clés, quand on les distribue, c'est un risque qu'elles puissent être falsifiées. Et pour ça, notamment en substituant des clés et en modifiant les identifiants utilisateurs. Et pour protéger une clé publique, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise la partie privée de votre clé principale pour signer toutes les composantes publiques et identifiants utilisateurs. C'est ce qu'on appelle une autosignature, self-sig, parce qu'on alors il utilise les termes anglais, il utilise les termes français. Ça pour les apprentis. Et du coup, donc là, et ça apparaît quand on fait un check, on apparaît donc que c'est que pour vérifier qu'on a bien fait une autosignature de façon correcte. Ensuite, on peut vouloir ajouter des composants à une clé, donc des identifiants utilisateurs, et donc des entités. Donc c'est avec add UID. Si on veut avoir pour la même clé des multiples identités pour des contextes différents, et on peut rajouter des sous-clés. Comme l'a dit Jiben, il faut avoir plusieurs sous-clés. On va en revenir là-dessus plus tard sur comment les gérer et dans quel cas les utiliser. Et ça peut être intéressant parce que vous allez utiliser vos sous-clés pour le chiffrement et la signature, et ça permet de changer régulièrement de sous-clés sans avoir à changer la clé principale. Et donc perdre toutes les signatures, etc. Et ça permet d'en avoir sur des machines différentes, sans compromettre la clé principale. Ensuite, on peut retirer des composantes à une clé. Donc je vous dis comment on fait, mais il ne faut pas le faire. D'abord, vous sélectionnez l'item que vous voulez effacer, supprimer. Sélectionner une clé, c'est key. Pour sélectionner une identité, c'est UID. Et ensuite, vous effacez en utilisant del key et del UID. Donc ça fout la merde dans la distribution des clés de le faire. Quand vous importez ou que vous envoyez des clés sur les serveurs de clés, ça, la fusion va restaurer les éléments effacés. Enfin, ça fait chier tout le monde. Ça ne sert à rien. Et du coup, il est conseillé de révoquer les composants d'une clé. Ça est propre, c'est la façon correcte de le faire. Donc, pour révoquer une sous-clé, c'est RevKey. Une signature, c'est RevSig. Et pour identifier l'utilisateur, bah, vous révoquez l'autosignature que vous avez fait sur l'utilisateur. Tout simplement. La révocation sera visible par toutes les personnes qui s'intéressent à votre clé. Ça apparaîtra au moment des mises à jour, des clés. Et ça permet que les autres que les personnes, vos correspondants, soient au courant qu'ils ont une version intègre et à jour de votre clé. Ensuite, comme je vous ai dit, on peut modifier changer l'expiration de la clé. Si vous avez forcément donné une validité de 2 mois comme conseillé, et du coup, vous utilisez vous utilisez expire pour expire qui va une fois que vous êtes dans le menu edit pour effacer la dernière autosignature. Et la dernière autosignature qui aura lieu, donc celle que vous faites à ce moment-là, ce sera la référence pour vos correspondants. Donc, maintenant que vous allez faire tout ça, vous allez avoir envie de communiquer. Et comme l'a dit Jiben, ça va passer par vérifier l'identité des autres et signer les clés. Donc, pour signer une clé, vous vérifiez son empreinte. Et au moment où vous la signez, vous considérez qu'elle est valide. Pour visualiser l'empreinte, vous pouvez faire utiliser --fingerprint ou quand vous êtes en menu d'édition d'une clé FPR, vous vérifiez l'empreinte de la clé avec le propriétaire. Ça permet de s'assurer qu'on a une copie correcte de la clé au moment où on la signe. On s'assure que la personne est bien celle qu'elle prétend être, en tout cas que les identités correspondent. Et on le fait en l'ayant sous les yeux, avec sa carte d'identité et tout ce qu'il faut. Et pour la signer, vous utilisez la commande sign et elle vous guidera tout simplement. Enfin, le menu utilisateur, interface utilisateur est simple. Donc ensuite, justement, c'était l'animation de Jiben, c'est sur la confiance qu'on peut avoir avec la notion de réseau de confiance. Donc, GPG va vous proposer 5 niveaux de confiance différents pour les propriétaires de clés. 1, pour unknown, inconnu. On ne sait strictement rien de la façon dont la personne signe ses clés. C'est à part par 0, par défaut. 2, on sait que la personne ne vérifie pas soigneusement avant de signer. On ne lui fait pas confiance. 3, c'est la confiance marginale. On sait que le propriétaire a conscience de ce qu'il fait quand il signe. Dans l'animation de Jiben, c'est ce qu'il accordait comme confiance dans son animation. 4, c'est c'est une confiance totale. On sait que le propriétaire de la clé sait vraiment ce qu'il fait quand il signe une clé. Et on lui fait presque aussi confiance qu'à nous-mêmes, quasiment autant. Au moins autant pour les validités. Et le niveau 5, c'est une confiance absolue. Et vous n'avez une confiance absolue qu'en vous-même, en vos propres clés. Les autres, non. Enfin, on espère que tu as confiance en toi. Pour définir les niveaux de confiance qu'on a envers les propriétaires des clés, on utilise la commande trust. Et il faut savoir que le niveau de confiance que l'on attribue, c'est une information personnelle, privée, qui est enregistrée dans une base de données différente à vous. Et du coup, la personne à qui vous mettez un niveau de confiance de 2 ne sera pas au courant. Donc vous n'avez pas peur de faire des incidents diplomatiques parmi vos amis. Alors, on peut, donc comme l'a dit Jiben, on peut utiliser la confiance pour valider des clés. Donc là, c'est les rappels des conditions qui permettent à une clé d'être considérée comme valide. Donc pour mettre à jour ces niveaux de confiance et les modifier, on utilise la commande updateTrustDB, partie de TFDB, qui vous fera faire des mises à jour si elles sont, enfin, qui vous proposera de modifier les clés si nécessaire. Et la dernière chose qu'il faut savoir faire avant d'utiliser sa clé, c'est à quoi servent les serveurs de clés. Et donc, comme l'a dit JBN, il faut idéalement les distribuer personnellement, mais en pratique, les serveurs de clés, c'est sympathique, c'est plus simple, ça prend moins de temps, c'est moins contraignant, et je suis une feignasse. Finalement, apparemment, la plupart des utilisateurs auraient tendance à ne pas distribuer leurs clés personnellement, et que c'est apparemment pas dramatique. Quand vous envoyez votre clé, elle est ajoutée à la base de données, et sinon, vous l'avez déjà envoyée, elle va fusionner avec la clé précédente, et c'est justement à ce niveau-là qu'il vaut mieux avoir révoqué une composante que de l'avoir effacée. Sachant que les différents serveurs de... Donc on vous en propose un de base, il y en a un par défaut dans la configuration. Vous pouvez le changer, mais ils se synchronisent à peu près tous assez régulièrement, donc ça finira par être propagé, donc c'est pas la peine de le faire sur plein de serveurs différents. Une fois qu'on l'a envoyé, on n'est pas obligé de la distribuer. C'est-à-dire qu'une fois que la clé est modifiée, on n'est pas obligé de la renvoyer à toutes les, qu'on a modifié la clé, on n'est pas obligé de la renvoyer à toutes les personnes avec qui on correspond. Ils la récupéreront eux directement auprès du serveur de clé. Et, pour récupérer les signatures qu'il y a eu sur notre clé, on utilise la commande refkey. Et, juste pour les récupérer. On va voir après. Justement, puisqu'on on a parlé de révocation et d'expiration de clés, il faut se mettre à jour régulièrement, et c'est très facile avec les serveurs de clés. On fait on utilise la commande refresh keys pour vérifier les différences entre ce que nous on avait et ce qu'il y avait sur les serveurs, et ça se scripte très bien à chaque fois pour le faire tous les jours, deux fois par jour, selon votre niveau de paranoïa. Maintenant, vous allez enfin pouvoir savoir à quoi ça sert et apprendre à l'utiliser. Déjà, pour afficher le trousseau de clés, ce qu'on a vraiment en main, petite liste keys, et après, à partir de ça, on va pouvoir faire des choses. Notamment, échanger des clés publiques, donc on peut les importer une clé publique à partir d'un serveur de clés. On procède en trois étapes. Donc, on trouve la clé publique de la personne que l'on cherche en utilisant search keys puis l'identité de la personne, une adresse mail typiquement. On choisit la clé que l'on veut importer de la personne qu'on pense avoir trouvée, puis on absorbe la clé en faisant un res keys suivi de l'identifiant de la clé. L'identifiant nous a parlé JBN. Lorsqu'on dispose de la clé qu'on a reçue par clé USB, par exemple, il faut importer la clé, et pour ça, il faut utiliser import suivi du nom du fichier dans lequel la clé est stockée. Pour l'exporter, c'est logique, on utilise send keys, et quand on l'envoie à un correspondant, le format binaire est parfois problématique selon ce que vos correspondants veut en faire et veut stocker et ce qu'il utilise pour ce qu'il utilise après, enfin les notamment pour les emails. Il y a une façon de lui simplifier la vie avant de faire l'export key, utiliser en utilisant l'option Armor qui permet de générer la sortie en fait soit dans un format le format ASCII Armored qui est plus pratique d'utilisation et qui est mieux toléré. Ensuite quand ça touche à votre clé privée, il va falloir faire beaucoup plus attention. Donc déjà il faut choisir l'idée de la clé avec la clé privée avec laquelle on travaille. si on en a plusieurs. Donc, en utilisant un list secret keys, parce qu'elles sont pas, puisque on sait, pour le coup, c'est les clés privées. Et ensuite, le principe, c'est tout simplement de réutiliser un export, sauf que la commande est différente puisqu'il s'agit de la clé privée. Donc, avec un, il faut rajouter le secret. Et, enfin, c'est les mêmes commandes avec juste, on insiste sur le fait que vous êtes en train de toucher un truc sensible. Et il y a une diapo qui a sauté quand j'ai copié. Non, tant pis. Ensuite, le principe, c'est que vous n'allez pas travailler directement avec votre clé privée parce que elle est beaucoup trop précieuse pour être transportée, beaucoup trop sensible pour être transportée, être utilisée. Vous n'avez pas envie de l'utiliser sur un ordinateur partagé, comme ça peut être le cas au labo. Vous n'avez pas envie de l'utiliser sur une machine en réseau. Vous n'avez pas envie de la laisser à la portée de qui que ce soit. Du coup, vous allez travailler avec des sous-clés qui sont liées à votre clé principale maîtresse, que vous pouvez révoquer, stocker indépendamment d'elle, vous faire plein de choses. Et vous publiez ces sous-clés, vous utilisez ces sous-clés comme vous auriez pensé utiliser votre clé principale, sauf que votre clé principale, vous la cachez et vous la sortez que très peu. Vous la sortez quand vous voulez signer quelqu'un, la clé de quelqu'un. Vous la sortez quand vous voulez créer une sous-clé avec AddKey et quand vous voulez révoquer une sous-clé. C'est les cas où vous utilisez et vous importez votre votre clé privée. Donc voici les recommandations Debian pour l'utilisation d'une clé privée et générer des sous-clés. Donc typiquement si on prend le cas de on veut générer une sous-clé, il va falloir récupérer la clé maîtresse à partir de la clé USB que vous avez sortie de votre coffre à la banque, n'est-ce pas Jiben? Vous créez ensuite tout simplement une fois que vous avez récupéré la clé maîtresse, comme c'est indiqué, vous créez tout bêtement la sous-clé, ça marche comme si elle avait toujours été là. Vous recopiez dans le disque externe, puis c'est compliqué parce que c'est pas sans, enfin, GPG est pas fait pour ça. Mais c'est la méthode qui est, méthode préconisée par Debian. Il y a d'autres façons de le faire qui sont considérées comme moins sécurisées. Notamment celle qui consiste à importer la clé privée, en la cherchant sur le réseau. Vous réexportez la sous-clé que vous venez de créer, vous exportez les clés publiques, vous supprimez la clé principale si vous n'en avez plus besoin, vous n'en avez plus besoin, elle est sur la clé USB, vous la remettez dans votre coffre, vous réimportez les clés dont vous avez besoin. Et ensuite, vous faites une dernière vérification. Vous vérifiez que quand vous faites un list keys, la clé principale, il y a un dièse qui signifie que la clé n'est pas réellement là, n'est pas présente sur la machine, et que du coup, votre clé privée n'est vraiment plus sur la machine. Tout ça pour pouvoir enfin utiliser les sous-clés. Et donc là, c'est le principe du chiffrement, comme l'a expliqué Jiben. On chiffre avec sa clé privée de l'autre. Et du coup, la façon de chiffrer, ce dont vous avez besoin, c'est de la clé publique de chacun des destinataires de votre message. Les destinataires, vous les précisez avec /recipient, avec suivi de l'identifiant de la clé du destinataire 1, puis 2, 3, 4, 5, 6, N. Et si vous ne vous incluez pas dans la liste des destinataires, GPG vous inclura pas d'office, donc vous aurez un message que vous ne pourrez pas lire. Donc si vous supprimez le message d'origine, vous aurez l'air bête. Donc la commande à utiliser... Ouais, je sais. C'est la faute de Jiben, il a voulu me faire tout dire. Il faut utiliser encrypt. Le symétrique avec pour déchiffrer, c'est decrypt. Et ensuite, c'est globalement la même chose pour les signatures, sauf que tu me laisses combien de temps ? Ok. Donc il y a donc pour Vincent qui se demandait comment on faisait, il y a le donc le la il y a plusieurs façons de signer un document. Donc d'abord, pour les vérifier, c'est juste Verify. Ça, c'est très simple, ça le fait tout seul. Et pour vérifier et extraire, vous utilisez Descript suivi du document et en pointing. Donc plusieurs façons. La première façon, c'est de signer le document en clair, parce que comme on n'a pas, c'est pas très, pas très agréable de recevoir le message super compressé et on préfère recevoir le message en clair. Donc vous utilisez ClearSign suivi du document. Donc le message apparaît et la signature apparaît après, ce qui peut permettre que ce soit lisible. Et n'empêche que il est quand on s'adresse à des gens qui ne potentiellement ne connaissent strictement rien à GPG, d'avoir la signature complètement détaché du document, histoire de pas les perturber. Et pour ça, vous pouvez utiliser Detach Sig, qui permet de générer une signature à part du document et que vous pouvez envoyer en pièce jointe. Et on vous posera la fameuse question, mais qu'est-ce que c'est que cette pièce jointe? Et vous pourrez étendre votre réseau de confiance une fois que vous les aurez convaincus d'utiliser ça. Donc le point, c'était de pouvoir, pour les apprentis, de pouvoir voir à quoi ça sert, et si en particulier pour les mails. Donc c'est facile, mais moi j'ai réussi en à peu près 10 minutes. Du coup, vous allez devoir être capable aussi, et maintenant de pouvoir signer tous les mails que vous envoyez dans vos cas de vos fonctions en France. Et il y a plein de choses qui vous permettent, des clients qui le font nativement, et des tas de plugins. Et il est important de toujours préférer PGP MIME qui est de cocher l'option qu'il faut, parce que c'est pas forcément l'option par défaut. Voilà. Donc voilà, c'est là quand j'ai demandé à JBN, voilà ce qu'il m'a à peu près répondu. Il faut absolument protéger votre clé privée. Donc le principe, c'est de conserver le certificat de révocation et une copie sauvegarde de la clé publique sur un support protégé en écriture dans un lieu sûr, de conserver votre clé privée sur un disque amovible protégé en écriture, d'utiliser votre clé privée sur une machine mono-utilisateur déconnectée du réseau, d'avoir un bon mot de passe. Donc vraiment, vraiment utiliser, enfin dans la vie quotidienne, utiliser vos sous-clés et limiter l'utilisation de votre clé privée. Et bon voilà. Si c'est fini. Non mais parce que je peux dire des choses, mais je pense que Gaëtan va faire une crise de nerfs. Pour les apprentis et ceux qui étaient là, si vous avez bien écouté tout ce que JBN et moi on a dit, eh ben il y a un quiz, et du coup si vous avez 20 sur 20, eh ben vous avez le droit de venir nounou.
C'est-à-dire tous les droits sur les serveurs au CRANS. Bon, tout de suite ou une pause entre les deux? Ah oui, pardon, excusez-moi. Oui, s'il y a des questions. Désolé.
J'ai une question sur la gestion des clés. Donc on a vu que la clé primaire, il vaut mieux la mettre sur un support amovible enterré au fond du jardin. Mais l'opération qu'on a l'air de vouloir faire souvent, c'est quand même signer avec cette clé-là. Est-ce qu'il y a des gens qui ont pensé à un mécanisme où on peut signer avec une sous-clé et au moment où on la révoque, on dit qu'en fait c'était bon et on passe à la suivante ou pas?
Alors, à ma connaissance, non. Peut-être que c'est possible. Mais à ma connaissance, non. Oui.
Donc, je disais, en pratique, au moment où tu vas à la key signing party, tu signes avec ta sous-clé, tu stockes sous la main le fait que tu as signé avec ta sous-clé, tu reviens à la maison avec ton tas de données, et là, à ce moment-là, tu vas le signer avec ta clé secrète. Comme ça, tu vas pas la sortir et te balader avec, mais bon, il faut quand même la sortir du coffre-fort à ce moment-là.
Alors, moi, en pratique, ce que je fais, c'est que quand j'ai besoin de signer des gens, je note les fingerprints sur mon carnet. Et je les signe un jour, hein. Généralement entre 0 et 1 mois. Donc voilà, je signe pas à la minute, mais c'est un carnet qui me sert de temporisation. Alors après, ça peut être un fichier signé sur ton disque dur ou sur le réseau, comme ça a été proposé.
D'autres questions? Très bien. Bon, on fait une pause de 5 minutes et je vous remercie encore.